Énergie. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori. Je rappelle qu'il est l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et je vais être encore une fois votre animatrice cette semaine. Donc, au dernier épisode, j'ai reçu Juliette et Zoé, avec qui j'ai parlé de l'enjeu de la langue au Québec, tant dans le contexte scolaire, donc on parle du primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur même, que dans les médias. On a parlé d'un choc des générations aussi quant à la langue, de l'évolution de la langue parlée aussi et des enjeux qui entourent l'immigration. Donc, c'est une conversation très plaisante et on aurait pu en parler pendant des heures, mais on s'est retenu. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. Dans cet épisode-ci, on va jaser de politique. Donc, un intérêt qui est commun des gens de notre bac, mais c'est pas le cas pour plusieurs étudiants puis pour bien du monde en général. Parfois, on voit la politique comme un sujet un peu élitiste, voire même plate, qui intéresse pas. Ou des fois, c'est pas rare que je rencontre des gens qui se disent que qui sont pas politisés, dans le fond, qui se foutent un peu de qui va être au pouvoir. On vote des fois par automatisme même, plus que par conviction. Puis parfois, on vote tout simplement pas. Mais la politique, ça englobe, oui, la vie démocratique, le gouvernement, mais plein d'autres aspects qui pourraient capter l'attention, mais dont on parle un peu moins. Donc, j'étais super contente du concept de l'émission d'aujourd'hui, qui est un peu dans l'esprit de décomplexer la politique, la voir sous un autre angle et de façon un peu plus sympathique et digestible. Donc, aujourd'hui, pour ce faire, je vais être accompagnée d'Antoine et Victor, qui sont à mes côtés. Donc, vous allez bien?
Oui, absolument.
Cool. Ben, j'aurais le goût de vous dire, ben, dans le fond, vous êtes genre deux biaprices qui ont un parcours quand même distinct et impressionnant. Là, j'ai le goût de dire le mot impressionnant parce que vous avez des expériences qui sont très terrain à ce qui a trait à notre programme, dans le fond, que ce soit le journaliste pour toi, Antoine, ou la politique active pour toi, Victor. Donc, je vous inviterai comme à partager votre parcours jusqu'à présent, tant au niveau académique, professionnel, si le cœur vous en dit.
Oui, absolument. Moi, j'ai commencé, j'ai fait mes études collégiales à Jonquière, où j'ai fait une technique en journalisme, puis ensuite j'ai eu l'occasion, là, même si les stages ont été annulés à cause de la pandémie, j'ai été embauché par TVA CIMT, qui est basé à Rivière-du-Loup. Donc j'ai d'abord travaillé pour TVA en Acadie pendant l'été 2020. Oui, j'ai vécu une quarantaine de deux semaines consécutives chez moi. Non, c'était pas très le fun, mais ensuite j'ai pu expérimenter le métier pendant un petit bout. Donc c'est ça, à titre de journaliste tout simplement. Pendant environ quatre mois, finalement, j'ai travaillé en Gaspésie, toujours à TVA, qu'on appelle cette fois-ci CHAU TV1. Encore une fois, dans la vie politique, c'est un peu une des choses qui me passionne dans la vie, c'est la politique, les affaires publiques. Le métier de journaliste, c'est parfait pour ça, c'est parfait pour parler de ça. Et ensuite, j'ai terminé la saison 2021 à Rivière-du-Loup. Depuis, j'ai pas été de nouveau journaliste, mais ça m'arrive régulièrement de passer à Chiz de 94.3. Toujours très plaisant de revenir un peu dans les communications. Donc, c'est ça pour moi.
Pour moi, je dirais, par rapport à la politique, j'ai pris le goût de l'engagement peut-être vers la fin de mon secondaire, début cégep. J'ai commencé à faire des journaux étudiants, par exemple, à m'impliquer dans les comités qu'il y avait. Puis aussi, dans la politique partisane, j'avais décidé de commencer à militer après l'élection de 2018 parce que j'avais vu le résultat qui me satisfaisait pas. Puis je me suis rendu compte que si on était tous pas satisfaits et qu'on restait dans notre salon à regarder l'écran, ben il n'y avait rien qui allait changer. Bref, j'ai commencé à militer comme ça. Puis aux dernières élections, c'est ça, j'étais candidat en même temps de faire le biaprix. Fait que c'était complexe, fallait bien jongler.
Ouais, mais ce qui est quand même très impressionnant, je veux dire, de faire
mais c'est une
campagne.
Très bonne manière d'apprendre aussi sur, tu sais, Bien après, c'est plutôt des domaines qui sont politisés, donc je trouvais que cette expérience-là pratique, ça, Ça se jumelait bien.
C'est ça. Puis, ben, comme tu as dit aussi, Antoine, ben, là, c'est deux, vous, le sujet des affaires publiques, relations internationales, c'est les choses qui vous intéressent. Donc, vous voyez un peu le Biapris comme un complément à vos expériences.
Absolument. Mais, tu sais, le monde de la politique, c'est un monde qui est très diversifié. Puis, en politique, on fait pas juste de la politique. En politique, on fait du droit. C'est des questions économiques, des questions publiques, des questions d'affaires publiques. Donc, ouais, notre bac, je pense que c'est parfait. Si on faisait strictement juste des études en politique, ma foi, c'est très intéressant. Ouais. Je pense que j'aurais aussi aimé ça, le bac en sciences politiques. Mais je pense qu'il manque un petit quelque chose. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est parfait pour nous, finalement, le Biapris. On touche à tout, puis la politique, c'est ça, c'est toucher à tout.
Oui, ben moi aussi, je le recommanderais pour n'importe qui veut améliorer son jugement critique sur l'actualité, parce que c'est vraiment ça, tu sais, pas le politique, mais comme la politique avec les autres dimensions qu'il y a, ça apporte plusieurs angles sur tous les sujets. Puis moi, j'ai remarqué que pour assimiler des enjeux, des sujets...
Des concepts, oui. Oui,
mais ça allait de l'actualité, tu sais, de vraiment des... qui est pratique, je trouvais que ça aidait pas mal.
La politique, c'est pas juste la game politique, c'est aussi ce qui vient par-dessus les politiques public.
Puis donc, sur quoi, justement, on fait les décisions politiques. Donc, comme tu as mentionné, Victor, toi, tu as été candidat pour les dernières élections. Puis ce qui m'amène, dans le fond, à... Ben, je pense que les gens doivent s'en douter un peu. Tu es un étudiant, donc tu n'es pas très âgé. Tu n'as pas, des années d'expérience sous ta cravate, disons. Fait que j'aimerais ça qu'on jase un peu de l'âge en politique. Est-ce que on peut être trop jeune pour faire la politique? Puis toi, comment un peu t'as perçu genre ton expérience?
Je dirais, pour commencer, en ce moment, ce qui est dommage à l'Assemblée nationale ou municipale comme au fédéral aussi, c'est qu'il y a une sous-représentation des jeunes. Nos politiciens sont quand même relativement âgés, puis c'est dommage de pas avoir plus de représentativité d'autres perspectives. Par exemple, les jeunes, je pense pas que c'est être trop jeune qui est une mauvaise chose en soi. Je pense qu'on peut être compétent même en étant jeune, puis que même que ça amène d'autres angles sur des sujets. Puis si on parle pas assez des dossiers jeunesse, à mon avis, des dossiers étudiants. Fait que, est-ce qu'on peut être trop jeune? Je pense qu'il y a du monde qui sont jeunes, qui sont aussi compétents, mais il y a du monde qui y croit tout simplement pas.
Moi, j'ai une question pour toi. Oui? Trouves-tu que l'âge, justement, ça a été quelque chose qui t'a été reproché pendant la dernière campagne électorale?
J'ai eu des deux.
Les deux?
J'ai eu des deux, mais je te dirais que le monde à qui je parlais en vraie personne était assez ouvert, là, ce qu'on me démontrait, mais c'est beaucoup, là, puis ça va faire un bon lien avec le sujet qu'on veut parler tantôt, mais les médias sociaux là sont pas gênés, tu sais, mais là, c'était vraiment, il y avait plus de reproches, puis le monde avait moins de filtres, là.
Mais t'as-tu senti que les gens avaient, disons, une perspective, justement, de dire, ah, oh, lui est jeune, il connaît rien, puis ah, oh, j'ai pas confiance.
Oui. Mais clairement, là, oui, quand on est jeune, il faut faire plus de preuves, là. Ouais. Fait que, ouais, j'avais senti ça un moment, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient, comme je disais, ouvert à ça, puis qui voyait ça assez positivement, même à l'inverse. Là. Mais ouais, il y avait des deux, mais...
Mais dans le fond, c'est juste que, je me questionne, parce que là, il y a de plus en plus de candidats qui sont de plus en plus jeunes et tout. Puis est-ce que toi, tu sens comme qu'il y a une mouvance? Est-ce que tu sens que... Ben, peut-être toi-même t'as inspiré des jeunes. Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par ça ou que justement on se tourne plus, tu sais, il y a la politique active, mais j'ai comme aussi l'impression qu'il y a plusieurs jeunes qui se disent, ben, je vais attendre un peu, je vais faire de la politique plus, tu sais, je vais faire de la mobilisation, je vais faire tout ça, mais je m'embarquerai pas dans la politique. Fait que c'est quoi, toi, qui t'a vraiment poussé à t'embarquer vraiment dans une politique active puis de te présenter, là?
Ben, plus personnellement, moi, ça faisait longtemps que je militais dans mon parti politique. Puis l'occasion s'est présentée pour moi de me lancer dans le comté où j'ai grandi. Fait que j'ai décidé d'y aller. Puis tu sais, c'était beaucoup... j'ai abordé tantôt, là, mais c'était vraiment par goût de faire changer les choses que j'avais pris ma première carte de membre. J'ai commencé à m'impliquer dans les instances. Puis après... ces années-là, mes convictions n'avaient pas changé. Fait que je voulais faire ce qui était le plus utile pour le parti, puis porter les couleurs de mon parti dans cette circonscription-là, c'est la meilleure chose que je pouvais faire. Puis c'est une très bonne expérience. Ensuite de ça, est-ce que les choses changent? Ben, moi, je pense que là, il y a eu beaucoup de jeunes, on l'a vu, là. Entre autres, dans mon parti, où est-ce qu'il y avait la moyenne d'âge la plus basse des candidats. Puis il y en avait dans d'autres partis aussi, dans plusieurs comtés, là. Puis pareil pour le prochain sujet qu'on va parler, là.
Moi, j'ai une petite question pour toi. Avec le vieillissement de la population, on peut avoir l'impression que les partis vont tenter d'avoir des candidats qui reflètent généralement davantage la population qu'ils souhaitent représenter. Est-ce que ça se pourrait que, dans le fond, les partis fassent un certain tri? Donc, essayent de trouver des candidats qui sont davantage de l'âge de leurs électeurs, puis que dans certains comtés, les électeurs, c'est davantage des familles ou des gens à la retraite, par exemple. Penses-tu qu'il y a un certain tri qui se fait, puis qu'au final, c'est pas juste le manque de mobilisation des jeunes qui fait qu'il peut avoir moins de jeunes en politique que ça pourrait l'être, mais plus parce que il y a un tri qui part d'en haut, finalement?
À savoir si, éventuellement, je pense pas que les politiciens vont... La moyenne d'âge politicien va devenir plus vieille. Je pense que les gens sont quand même ouverts. Puis même, je dirais l'inverse, là, qu'ils sont de plus en plus ouverts à ce qu'il y ait du monde qui vient de partout, qui sont rendus à toutes sortes d'endroits dans leur vie, là. Mais on le voit aux dernières élections, on l'a vu aussi avant au municipal, là, où est-ce que ça commence, il y avait beaucoup
oui.
de...
Oui, c'est vrai.
Une vague dans la politique municipale de jeunes, on pense à Laval, on pense à Longueuil également. Là.
Ouais, Gatineau, elle n'a pas été élue, mais...
Mais oui, je pense qu'à l'inverse, je pense pas que les gens vont voter nécessairement juste pour du monde qui sont peut-être plus proches de où ils sont rendus dans leur vie, tu sais, mais... C'est parce qu'on parlait du vieillissement de la population, mais j'ai l'impression qu'on va plus vers une meilleure représentativité des jeunes en politique.
Puis généralement, de toute façon, les députés, c'est des gens qui viennent de toutes sortes de professions. C'est pas juste des médecins puis des avocats. Il y a des professeurs qui se lancent en politique pour devenir députés. Il y a des journalistes aussi qui se présentent en politique pour devenir députés. On
récemment,
l'a vu récemment. Bref, il y a des gens de toutes les professions qui viennent du secteur de la santé, etc. Puis souvent, ces gens-là, qui auparavant n'avaient pas nécessairement un intérêt particulier pour la politique, moi, de mon point de vue, ces gens-là ne sont pas mieux placés pour avoir de l'expérience ou des connaissances ou des idées en politique qu'un jeune qui, depuis son adolescence, a de l'intérêt pour le militantisme, pour la politique, depuis le cégep également à l'université, puis qui a décidé de se lancer là-dedans par intérêt. Moi, ces gens-là, je les place au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui, oui, ont une expérience de vie, ont une expérience d'adulte, de marché du travail, sont plus vieux, mais en même temps, ils ont moins creusé dans la politique quand ils étaient plus jeunes, vis-à-vis des jeunes qui ont moins d'expérience dans la vie active, mais par contre, ça fait des années qu'ils s'intéressent aux enjeux puis aux politiques publiques. T'sais. Fait que pour moi, ces gens-là sont sur le même pied d'égalité. Puis effectivement, probablement que le public, il fait pas vraiment trop la différence rendue là. Peut-être que c'est un effet d'image, là. J'ai pas d'études à sortir nécessairement pour dire que quand les candidats sont plus vieux, que ça a un impact sur le vote nécessairement. Mais bref, dans mon estime à moi, pour moi, ça s'équivaut, même qu'un jeune qui a beaucoup d'intérêt pour la politique dans la vingtaine, ça vaut même probablement plus que quelqu'un qui a décidé de se lancer là-dedans de façon ponctuelle. Bref.
Puis j'ai aussi l'impression que, ben, d'une certaine façon, comme oui, les jeunes qui se lancent en politique, ben, représentent aussi... Tu sais, les nouveaux sujets là, qui sont les sujets
absolument.
De l'heure, je veux dire, le changement climatique, c'est l'exemple, disons, très évident, tu sais, que les jeunes vont porter le message puis vont vouloir en parler. Mais j'ai quand même l'impression que c'est ça. Moi, la jeunesse en politique, je la vois justement, comme Antoine disait, je la vois pas comme négative parce que justement, c'est des gens qui sont informés puis qui veulent pousser pour leurs convictions, comme n'importe quel politicien. C'est juste que des fois, on va juste pousser pour... Des enjeux qui sont soit nouveaux, soit dont on n'a jamais parlé ou qu'on a passé sous le silence. Fait que je pense que la perspective, on voit que c'est des jeunes, oui, mais comme ça change quoi? Tu sais, parce que...
De toute façon, il n'y a pas de CV pour aller en politique.
Ouais, c'est ça.
Quand tu rentres là-dedans, ce que j'ai entendu différents députés dire, là, dans le cadre d'ailleurs de mes cours de sciences politiques, ou dans mon travail, quand tu parles à des députés qui sont très, très récents dans le métier, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de code de conduite. Ben oui, d'une certaine façon, mais bref, il n'y a pas de manuel d'instruction pour te dire comment ça fonctionne. Tu nages ou tu coules, si on veut. Il y a beaucoup d'informations que tu dois apprendre, que tu dois digérer quand tu te lances en politique, surtout à partir du moment où est-ce que tu es élu. Tu traites de sujets que n'importe quelle personne qui s'intéresse à la politique pensait jamais devoir traiter à tous les jours. Il y a des drames comme Lac-Mégantic, par exemple, où est-ce que tout d'un coup, là, maintenant, la case politique a besoin d'avoir des connaissances en trafic ferroviaire, tu sais, mm-hmm. ou en transport de marchandises, en commerce, ou mettons qu'on est dans une tragédie, on parlait de la tragédie à Laval il n'y a pas si longtemps, mm-hmm. un homme qui rentre avec un autobus dans une garderie, ben là, à ce moment-là, tu dois savoir, tu dois avoir des compétences humaines, tu sais, mm-hmm. savoir rassurer, savoir être sensible, comprendre un minimum... Bon, comment fonctionnent les garderies? Puis en même temps, c'est un sujet qui touche les parents, donc là, il faut que tu te mettes à la place des parents. Fait que bref, la politique, c'est tellement des sujets qui sont surprenants et diversifiés que bref, il n'y a pas vraiment de CV qui te prépare à ça. Ouais. Même quand tu t'intéresses à la politique depuis toujours, puis que tu as 50 ans, ma foi, t'as encore rien vu, finalement.
Puis aussi que c'est comme tout le point qui sous-tend notre démocratie représentative qui aide toutes sortes de monde parce que c'est une bonne chose, finalement, que ben, la démocratie représentative soit représentative de sa population. Ouais. Puis ça, comme tu dis, ça amène toutes sortes...
C'est bien qu'on n'ait pas de politiciens. Ben oui, il y a des politiciens de carrière, mais c'est le fun que la majorité des députés, c'est pas des gens qui... Je m'en vais en politique pour y effectuer une carrière de long terme. Moi, j'ai l'impression que plus il y a une rotation importante entre les acteurs politiques... plus c'est démocratique, justement. J'ai l'impression que quand quelqu'un va en politique, il livre son message, il livre ses idées, puis une fois que c'est fait, il quitte. Des fois, il y a des gens qui ont plus d'idées que d'autres, évidemment, qui vont rester plus longtemps. Ouais. Il y a des gens qui ont un support, ils ont un support social ou ils ont de l'influence dans le parti qui vont pouvoir rester plus longtemps. Mais bref, quand les gens arrivent et partent, c'est encore mieux. Surtout quand c'est des jeunes qui ont plein d'idées à porter, là. Fait.
Puis justement, ben, les jeunes, ben, c'est ça, ils encouragent d'autres jeunes, puis ça crée aussi l'effet de rotation que tu parles, que justement, ben, ça invite les autres à potentiellement s'impliquer. Puis, j'en reviens aussi, je trouve que la jeunesse, tu sais, comme, on peut faire un parallèle avec. Il y a comme un argument, là, que moi, j'ai entendu de certains de mes profs qui disent que pour être un bon politicien, il ne faut pas que tu sois un. Est-ce-tu le bon mot? Technocrate, c'est ça?
Un bureaucrate.
Mais quelqu'un qui est ultra spécialisé. Comme par exemple, pourquoi on devrait pas. Moi, j'ai entendu souvent, on devrait pas mettre un médecin au poste de ministre de la Santé. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir une perspective trop.
Il y a un conflit d'intérêts aussi.
C'est ça, trop personnel du fait que tu vois pas l'ensemble de l'enjeu et tout ça. Puis je trouve que ça revient un peu à l'enjeu de la jeunesse parce que, comme. On dit souvent, ben OK, mais ils n'ont pas une profession ou ils n'ont pas une spécialité ou ils n'ont pas un... Mais ça change quoi? Parce que vous avez comme une vision de la vie qui est différente, qui apporte comme...
Du
qui
recul.
Est une différente, c'est ça, qui a une différente perspective. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, on peut regarder aussi, justement, l'envers de la médaille. Est-ce qu'il y a un âge... trop élevé pour faire de la politique. Est-ce que... on le voit avec l'exemple parfait, c'est Joe Biden qui parfois cause un peu de doute ou de... On sait pas trop, est-ce qu'il est correct?
Il balbutie. On a vu Ronald Reagan auparavant. Mm-hmm. Bon, là, je veux pas faire de lien étrange, mais bref... quand on vieillit, il peut avoir souvent des problèmes de santé qui amènent une interruption de la carrière politique. Ça a survenu dans Ronald Reagan là, qui avait de l'Alzheimer. Il y a d'autres gens qui s'appellent des problèmes de santé davantage physiques, la douleur au dos. Puis on sait, la politique, c'est très, 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 très actif. Donc, pourquoi on n'ira pas davantage vers des jeunes qui ont encore beaucoup de temps, beaucoup de CV à construire, puis qui ont finalement une énergie reliée à leur âge, finalement. Là, on avait vu aussi, Victor Pelletier, si on veut nommer d'autres exemples. Victor Pelletier, qui est un candidat de 21 ans dans Saint-Henri-Sainte-Anne pour la CAQ, qui est finalement le chef qui est à la tête de l'aile jeunesse du parti. Et là, il se présente et là, il reçoit toutes sortes de critiques comme quoi il est trop jeune. Moi, ce jeune homme-là, je l'ai vu quand je faisais des différentes simulations parlementaires avant. J'avais fait le Forum étudiant du Québec là, à l'Assemblée nationale. Puis lui, il avait été à un moment donné, bon, d'abord dans un ex-parti. Puis quand j'ai quitté le Forum, je pense qu'il était devenu chef de son parti dans cette simulation parlementaire-là. Et ce jeune homme-là, même si je sais pas exactement c'est quoi ses idées, comment il défend le programme de la CAQ, c'est pas trop ça qui m'intéresse en ce moment, mais c'est un gars qui a plein d'idées, qui a du leadership aussi. Puis je trouve ça malheureux de voir des gens qui vont le discréditer, alors que il y a des contraintes pourtant qui viennent avec un âge plus élevé. Il y a des avantages également. Mm-hmm. Encore une fois, je suis pas en train de dire que être âgé, c'est un problème, mais pas du tout. Il y a des avantages, bien sûr, avec de l'expérience, mais si on valorise l'âge et l'expérience en politique, pourquoi on ne valoriserait pas les bénéfices qui viennent avec la jeunesse, surtout dans le cas de Victor Pelletier?
Ouais. Mais...
ouais.
Mais c'est aussi le sujet, tu sais, c'était... Il y avait, quand il avait été annoncé, il y avait eu une photo de lui à côté de François Legault, puis là, le veston était trop grand.
Trop grand.
Vous avez peut-être vu la photo, mais il y a eu beaucoup de commentaires, puis... Ça, je trouvais ça vraiment dommage, parce que, tu sais, c'est clairement, ça visait lui comme personne, puis moi, je pense qu'il est autant légitime que tous les autres candidats dans...
Tout le monde a le droit de porter un veston trop grand, là.
Mais ouais, je trouve ça dommage, parce que est-ce que ça pourrait en décourager certains de se dire « Ah, ben, je suis trop jeune pour faire de la politique », tu sais, puis de voir que c'est vraiment... ça, c'est très...
De voir que la critique est facile,
oui.
Puis que, tu sais, tu peux facilement te faire ridiculiser juste pour... Même juste vouloir essayer.
Oui, c'est
juste,
ça.
C'est ça. C'est comme pas encouragé, on dirait. Là. Ben,
ouais.
Du moins, c'est encouragé par certaines personnes, mais que d'autres vont vraiment essayer de peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, là, j'imagine.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, tu sais, je sais pas comment lui sait quand il rencontre le monde, mais encore là, ces critiques-là, ça vient des médias sociaux aussi, là, ce qui montre qu'il y a peut-être quelque chose à voir avec comment l'espace public fonctionne sur les médias sociaux, là, mais. C'était très cru, là.
Puis tu peux-tu... Tu sais, toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu peux juste développer un peu ce que tu veux dire par là? Comme tu sentais que les gens, disons, en personne, étaient un peu moins portés à critiquer, mais qu'en ligne, c'était...
Ah oui. Ben, y a vraiment une grosse différence, là. C'est comme...
Ben,
c'est surtout Twitter, je dirais.
Ouais.
Mais tu sais, c'est Twitter, par exemple. Tu sais, j'avais perdu le code de mon compte, là, puis j'avais... essayer de me reconnecter. Puis j'ai créé un autre compte par accident, tellement c'est facile de se faire un compte sur Twitter puis avoir une plateforme là. Tu sais, probablement, ça me surprendrait même pas qu'il y ait des robots sur Twitter que des groupes ou des groupes d'intérêt peuvent utiliser. Là, mais comme... Ouais, il y avait vraiment une grosse différence, je dirais. J'ai de la misère à expliquer pourquoi, là.
Ouais, ben, tu sais, ben, je pense que comme n'importe quel enjeu, tu sais, on parle pas juste de la politique, là, les réseaux sociaux, c'est juste beaucoup plus facile de critiquer en général, là. Fait que je pense que ça va juste de pair avec ça, là.
Ouais, puis justement, on parlait de la question de la sécurité des élus pendant les dernières élections. Puis la question de la sécurité peut souvent survenir sur les médias sociaux, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de menaces qui sont effectuées par des gens qui n'ont pas l'impression de faire des menaces. Puis c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas si grave que ça. Fait qu'on dirait que, oui, ça pourrait peut-être même décourager les gens de se lancer en politique quand ils ont l'impression qu'ils soient dans la vraie vie ou même en ligne, qu'ils sentent que leur sécurité puis leur dignité est menacée. Donc, ouais, les médias sociaux, j'espère que ça n'a pas affecté la confiance que tu avais quand tu t'es lancé.
Non, mais j'étais préparé à ce que ça arrive, là, puis je me disais que c'était pas trop grave, là, honnêtement.
Je pense que même Victor Pelletier aussi était préparé à ça.
Mais est-ce que vous avez comme une petite, pas une formation, mais est-ce que vous, comme on vous prépare à ça? Comme quand vous arrivez, disons, dans un parti, ou est-ce que, est-ce que vous êtes encadré par rapport à ça?
Ben, personne en particulier, je dirais, mais quand on pense à se présenter, c'est tout le temps quelque chose qui est quelque part dans notre tête, là, mais non, ben, il y a personne qui prépare à ça, là, mais...
Parce que quand même, tu sais, c'est que ta vie professionnelle entre directement pas en conflit, mais tu sais, avec ta vie personnelle. Là. Puis c'est ça que, tu sais, aujourd'hui, on veut parler un peu de l'aspect plus, tu sais, que les politiciens ont une vie personnelle, puis que... Puis,
ils ont une vie personnelle,
t'es sûr de ça? c'est pas... tu sais, puis dans le sens que souvent, on a tendance à mettre tout, tu sais, qu'ils ont pas le droit de nous cacher rien, puis tout ça, puis que... Mais je sais pas, dans ma tête, c'est un aspect qui... Moi, je sais pas. Dans ma tête, c'est quelque chose qui me semble qu'on devrait vous préparer ou... Pas de préparer, mais tu sais, d'une façon ou d'une autre, genre... Savoir que ta vie personnelle est, tu sais, est menacée, tu sais, comme... T'as moins de vie privée, j'imagine.
Mais j'imagine... je pense que le maire de Toronto a eu une... Pas une surprise, mais a vu les conséquences que pouvait avoir le lien entre la vie personnelle et la vie politique. Ben, pour faire le petit résumé là, pour les gens qui n'ont peut-être pas vu la nouvelle, dernièrement, le maire de Toronto a annoncé sa démission parce que, bon, c'est sorti dans les médias qu'il avait été infidèle Donc, il a trompé sa femme. Ici, je ne me trompe pas, c'est quelqu'un... il a trompé sa femme avec quelqu'un dans son entourage de travail. Ouais. Donc, lui, il a pris cette décision personnelle-là de se retirer de la politique. Pourtant, il n'y a pas de règlement municipal de la ville qui oblige un politicien. Il n'y a même pas de déontologie là-dedans qui oblige un politicien à se retirer de la politique. La dernière fois que j'avais vu ça, que ça m'avait frappé, bien, c'est sûr que j'étais pas né, mais c'était Bill Clinton lorsqu'il avait trompé Hillary Clinton. Ouais. Avec une employée de son bureau. Et là, il a failli se faire destituer. C'est toujours une question de valeur. Mais dans le cas, tu sais, en 2023, au Canada, à Toronto, il me semble que ce n'est pas le genre de chose qui va affecter la carrière de quelqu'un. Peut-être qu'il a senti, le maire de Toronto, que ça pouvait remettre en question, finalement, pas, le niveau de confiance qu'allaient avoir les gens envers lui, tu sais. Il a l'impression que, tu sais, quand tu... Il, peut-être qu'il, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait facilement pu rester en poste. Mais peut-être que derrière, dans sa tête, il s'est dit, j'ai trompé quelqu'un. Comment les gens vont me percevoir quand je vais essayer de leur parler de politiques publiques qui peuvent affecter leur vie, tu sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, j'aurais dit, reste en politique quand même. Tu sais, c'est quelque chose de très, très personnel. Puis quand les gens trompent leur conjoint, conjointe, c'est beaucoup, toujours plus complexe que juste tromper pour le bienfait de tromper, tu sais. Mais bref, c'est une décision assez surprenante quand j'ai vu que, bref, sa vie personnelle et sa vie politique se sont tellement fusionnées que sa vie amoureuse a fini par l'amener à remettre sa carrière politique en question. Ouais. Est-ce que t'as pas déjà eu peur, Victor, d'une certaine façon, que je sais pas si t'as été un mauvais garçon auparavant, mais c'est toujours dans notre imaginaire que, hey, est-ce que plus tard, il y a quelque chose que j'ai fait qui a été mal perçu puis qui pourrait venir me chercher? Est-ce que c'est quelque chose, une réflexion que t'as eue ou...
Non.
Non?
Je pense non.
Ben, tant mieux.
C'est un bon garçon.
C'est un bon garçon. Mais c'est par rapport à le maire en particulier. Moi, je pense pas que la pression aurait été assez grande pour qu'il ait comme pas le choix de démissionner, mais que lui décide de le faire, c'est aussi une décision qui est personnelle parce que il disait que c'est comme une manière de se rapprocher de sa famille aussi, puis il pouvait plus rester maire. Mm-hmm. Mais ouais, c'est vrai que c'est spécial, comme tu dis, à quel point la vie personnelle et professionnelle, c'est devenu comme la même chose.
On se rappelle de PKP qui avait décidé de se retirer, de démissionner de la chefferie du PQ. Et la raison qu'il avait donnée, c'est que, on s'entend qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs développements dans sa vie conjugale, etc. Mais que c'était pour des questions familiales que c'était séparé de la politique. Il y a comme on dirait qu'il y a un timing, finalement. Pour se lancer en politique. Moi, j'avais parlé quand je faisais mes études collégiales en journalisme. Là, j'avais pu parler à Mario Simard, qui est le député du Bloc québécois à Jonquière. Puis quand je lui demandais pourquoi vous lancez en politique maintenant, bien, il m'avait dit à ce moment-là, je pense que c'était en 2019, il m'avait dit écoutez, moi, mon fils, il est rendu aux études supérieures. Je ne sais pas, c'est déjà pas à l'université à ce moment-là. Il était rendu aux études supérieures. Puis il me disait peut-être que maintenant, c'est le bon moment, tu sais, question vie familiale. Moi, je sais pas si je vais avoir envie dans 20 ans de faire la politique, on va être rendu là, mais mettons là, je pense que je vais avoir une réflexion à avoir sur où est-ce que mon entourage en est, pas juste où est-ce que j'en suis, mais où est-ce que mon entourage en est. Puis on dirait que c'est une réflexion que tout politicien finit par avoir, la frontière entre sa carrière et sa vie personnelle.
Mais parce que j'ai comme l'impression que justement, quand tu décides de te lancer en politique, ben automatiquement, tu sais que ça va venir avec le fait que, bon, ta vie privée va être un peu moins privée, mettons. Mais j'ai comme l'impression que aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui votent de façon, tu sais, très selon leur boussole morale. Fait que j'ai l'impression que quand un candidat fait un acte, tu sais, comme on parlait d'infidélité tantôt, ou tu sais, n'importe quel acte de la sorte, j'ai l'impression que automatiquement il perd un électorat parce que ces gens-là sont comme, ah ben moi je ferais jamais ça. Et donc je veux pas quelqu'un qui ferait ça pour me représenter. Puis j'ai l'impression que ça n'a même pas rapport avec sa qualité de politicien, ça n'a pas rapport avec ses compétences. Juste une question de représentativité. On dirait que la moralité des gens ou les valeurs des gens vont vraiment les impacter dans leur décision politique. Je sais pas si...
Ouais, mais c'est sûr que quand les gens commencent à s'intéresser... J'ai l'impression que dans la vie en général, les gens vont pas particulièrement s'intéresser à la vie personnelle des candidats. Ça prend pas trop de place, à mon avis, dans les médias. Mais effectivement, quand on parle d'un scandale, par exemple, ouais, et que là, on en parle, Là, oui, j'imagine probablement que ça a un effet. Les gens, ils veulent voter pour des politiciens qui sont comme eux, finalement.
Ouais, oui, c'est ça.
Qui partagent leur mode de vie, puis qui sont représentatifs de leur circonscription. Tu sais, si t'es père ou mère de famille, probablement que ça te fait quelque chose quand ton député, il est père ou mère de famille.
Mm-hmm.
Donc, ouais.
Tu peux défendre tes intérêts.
Défendre tes intérêts. Juste par exemple, qu'on parle de père et mère de famille, que le député ou le candidat, lui, il comprenne c'est quoi chercher une garderie, tu sais.
Ben oui.
Pas facile. Il comprend c'est quoi, tu sais, les impôts. il comprend c'est quoi les transports en commun, la voiture, les déplacements. Il comprend c'est quoi peut-être aussi même d'un point de vue environnemental. J'ai des jeunes enfants. Quelle planète je veux laisser? Peut-être que le candidat comprend ou le député comprend ces préoccupations-là. Fait que oui, c'est une bonne théorie.
Mais est-ce que vous pensez que les politiciens méritent ces genres de sanctions un peu sociales-là? Que comme le fait que tu t'es présenté fait en sorte que qu'il y a une certaine imputabilité dans le sens que tu dois quelque chose à quelqu'un, genre. Que tu dois quelque chose à ton électorat.
Ben, en partant, moi, je pense là, que la plupart là, des gens qui se lancent en politique là, sont bien intentionnés parce que sinon, ça vaut pas la peine. Mm-hmm. C'est dur. Là. Fait que, pas mal, j'ai beaucoup de respect là, pour les autres personnes, même mes adversaires d'autres partis. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde qui décide de se lancer. Puis c'est dommage là, quand ça devient sur quelque chose de personnel.
Mm-hmm.
En tout cas,
Puis on le voit aussi, tu sais, avant que la période de questions commence au Salon Bleu, les députés de tous les partis, généralement, vont aller se parler qu'ils se connaissent bien. C'est des grands chums, c'est ça l'affaire. C'est des grands chums. Puis à un moment donné, encore une fois, je faisais une simulation parlementaire. Puis là, c'était François Paradis qui venait un peu. On mangeait au restaurant de l'Assemblée nationale. Puis là, il venait finalement faire un discours. Puis là, on le voyait. Il y avait différents députés qui avaient été invités pour se joindre. Puis c'était intercollégial. Fait qu'il y avait des cégeps qui étaient là. Puis nous, on avait notre député à ce moment-là qui était Sylvain Gaudreau. Moi, j'étais au cégep de Jonquière, délégation de cégep de Jonquière. Donc, Sylvain Gaudreau était là. Puis là, on le voit aller parler à François Paradis, qui est le président, qui est en position un peu d'autorité, mais qui est aussi, à la base, un caquiste. Mm-hmm. Puis pourtant, ça pose aucun problème. Puis tu les vois, c'est comme une grande famille, finalement. Mm-hmm. Une famille dans laquelle il y a des divergences.
Mais
c'est quand même beau de voir ça, là.
Parce que quand on y pense, je veux dire, le but de notre démocratie, c'est que oui, on élu des gens qui représentent différentes idéologies, différentes opinions politiques, tout ça, c'est différents partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, mais ils ont une mission commune qui est de représenter les intérêts de tous les Québécois. Puis s'ils sont pas capables de travailler ensemble, mais à quoi bon, tu sais? Ça mènera pas en nulle part, là.
On s'entend à ce qu'ils travaillent comme une gang. C'est comme les travailleurs, quand ils ont un syndicat, puis en même temps, ces travailleurs-là, ce sont aussi des électeurs, puis ils vont voter pour un gouvernement. À partir du moment où est-ce que tu t'es syndiqué, puis que ton syndicat doit négocier avec le gouvernement, puis que tu votes pour les élus au gouvernement, je sais qu'il y a toujours une espèce de confrontation syndicat-gouvernement, évidemment, qu'on renouvelle les conventions collectives dans la fonction publique provinciale, fédérale, etc. Mais en même temps, ces gens-là, on veut qu'ils s'entendent. Fait que quand c'est toujours dans la confrontation, c'est un peu décevant, à l'image de voir la bisbille, voir tel député ou tel chef de parti traiter l'autre de, encore une fois, je fais un lien avec tantôt, trop jeune ou trop vieux. Ça fait comme, come on, là. On veut que vous travaillez pour nous, tu sais, pas tout le temps dans votre petit monde de petite politique à vous chamailler comme des jeunes dans une cour d'école. Là. C'est rare que ça fait ça, évidemment. Heureusement, au Québec, là, je pense qu'on a une Assemblée nationale qui est quand même assez forte. Mais,
On va en profiter pour faire une courte pause, puis on vous revient sous peu pour parler de politique décomplexée avec Antoine et Victor.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Tu dévores les journaux? Tu te régales de politique? Tu salives lorsqu'on parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
Donc, vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Antoine et Victor. Et puis, dans le fond, là, on parlait justement de tout ce qui entoure la vie plus personnelle des politiciens. Puis, je pense qu'un enjeu qui fait polémique, c'est le salaire.
Ça a toujours fait polémique.
Comment ça? Donc, c'est autant difficile à changer.
Ben écoutez, là, ce qu'on remarque en ce moment, c'est qu'il y a des discussions à l'Assemblée nationale pour revoir le salaire des élus. Là, il y a un comité indépendant qui avait été mis en place puis qui doit se pencher sur le salaire des élus au Salon Bleu. Et là, encore une fois, ça fait polémique. Québec solidaire, lui, juge illégitime ce comité, entre guillemets, indépendant, étant donné qu'il y a deux ex-députés de l'Assemblée nationale qui siège sur ce comité-là pour revoir ça. Donc, bref, et là, ça crée un petit peu de la dissonance. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile, extrêmement tabou de parler du salaire des élus. Et c'est pas juste dans le présent cas du salaire des élus du Salon Bleu. Dans les dernières années, à plusieurs reprises, on a vu ça, souvent régulièrement. Je pense notamment à Saguenay, quand je l'étudiais là, où est-ce que à chaque fois qu'il y a la question du salaire des élus, de l'augmenter, il y a des gens qui vont venir s'opposer à cette augmentation-là, qu'elle soit légitime ou pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps augmenter le salaire des élus. Pour certaines personnes, c'est important qu'il reste pas trop élevé pour que ça demeure une vocation d'aller faire de la politique. Mais encore là, c'est un sujet qu'il faut aborder, que les élus n'ont pas le choix de faire. Puis pour beaucoup, c'est vraiment difficile à aborder parce que pour beaucoup de gens, les élus ne devraient pas être trop bien payés. Donc, voilà. Donc, la question, finalement, c'est pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si tabou, le salaire des élus?
Mais j'aimerais juste, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas, informés par rapport à ça, mais ce que tu dis en ce moment, c'est un peu que il faudrait que les élus décident eux-mêmes.
Non, dans une certaine mesure, généralement, les élus sont impliqués dans le processus de révision de leur salaire, comme n'importe quel groupe de travailleurs sur le marché du travail, tu sais. Sauf que quand c'est les élus qui prennent les décisions, mais sont dans une position de prise de décision politique, il y a quelque chose de supplémentaire, tu sais.
Mais dans le fond, ce que tu abordais, c'est que...
C'est que les élus sont chargés de veiller au bien-être de la société, le bien-être social, etc. Il y a toujours un débat fréquent en politique, c'est où est-ce qu'on met l'argent? Puis quand tu vois des politiciens qui parlent de leur propre salaire, là, tu dis, OK, là, maintenant, l'argent, ça a une dimension qui est personnelle. Et là, les gens se braquent un peu, tu sais. Mais je pense que ça fait quelque chose comme 23 ans, je veux pas dire des bêtises, je veux pas confirmer, mais ça fait de 23 ans qu'on n'a pas retouché au salaire des élus à l'Assemblée nationale du Québec.
T'sais. On a-tu un chiffre?
En ce moment, par an, c'est 100 000 $ donc c'est une rémunération évidemment au-dessus de la moyenne québécoise. Si je regarde ça ici, oui c'est ça. La rémunération des députés n'a pas subi d'analyse. Il n'y a pas eu d'analyse de la rémunération des députés depuis 2023, dans un article du Soleil. Depuis 23 ans, pas 2023. Depuis 23 ans, c'est ça. Donc,
On disait, tu sais, il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas que ce soit trop élevé pour que ça reste une vocation. Mm-hmm. Mais il y a aussi des gens qui pensent que ça devrait être plus élevé pour être plus à l'abri de la corruption, par exemple. Il y a un cas qui nous vient de Longueuil. On disait un député fait 100 000. Le maire de Longueuil, pendant longtemps, faisait quelque chose comme 250 000, je pense, à cause qu'il y avait eu un antécédent de conflit d'intérêts, si je me souviens bien. Je ne sais plus exactement. Mais...
On s'achète la paix avec un bon salaire, finalement.
Ouais. Puis là, finalement, la nouvelle mairesse Catherine Fournier l'a baissé. Là. Mais c'est spécial parce que le maire de Longueuil faisait comme plus que le premier ministre du Québec.
Sauf qu'en même temps, tu sais, si t'as des gens qui... Tu sais, on veut éviter la corruption avec un salaire peut-être plus élevé, on peut se dire que c'est un peu l'inverse. Tu sais, si les gens qui vont en politique, ils vont sans que ce soit un salaire exorbitant, c'est probablement pas des gens qui sont toujours porté vers l'appât du gain, tu sais. Mm-hmm. Donc, il y a comme un paradoxe là-dedans où est-ce que si c'est le boss, le salaire, ben pas le bas salaire, mais le salaire plus bas que ça pourrait être, fait justement qu'il y a une sélection où est-ce que finalement les députés qui vont être élus ou bien les candidats qui vont aller en politique vont pas nécessairement être des gens qui vont chercher à être trop bien payés.
Puis c'est aussi, tu sais, c'est plus qui ont des intentions plus altruistes que justement d'aller en politique. Parce que oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont en politique pour, tu sais, la célébrité, tu sais, un peu.
Wow.
Je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont là pour, de façon beaucoup plus personnelle, avec des intérêts, de vouloir, tu sais, être une tête d'affiche. Mais encore là, est-ce que c'est la majorité? Probablement
pas. On voit beaucoup ça aux États-Unis, tu sais,
oui,
en Kanye West.
Il faut vraiment le vouloir, là. Parce que...
Mais oui, parce que justement, tu sais, mais c'est parce que je pense que ça vient aussi d'une mauvaise connaissance de c'est quoi être député, là. Tu sais, je veux dire, ça demande énormément de temps de travail, mais c'est l'aspect que je voulais aborder que, tu sais, on pense aux salaires, baisse de salaire. Ben, est-ce qu'il y aurait pas un argument de dire qu'on devrait hausser le salaire parce que, ben, il y a tellement d'enjeux que, comme, oui, on parlait tantôt, notre vie privée est affectée. On a, tu sais, il y a comme un peu des enjeux qui font en sorte que notre qualité de vie, un peu, est diminuée. Tu sais, on travaille des très longues heures, hors 9 à 5, là, on s'entend.
C'est aussi l'idée que, quand les gens vont en politique, en général, ils ont un certain salaire qui est généralement un peu au-dessus la moyenne. T'sais, on a beaucoup de gens qui sont justement médecins, avocats, mais pas que ça, évidemment. Mm-hmm. Mais je pense que il y a une moyenne salariale des politiciens, quand on parle de leur salaire en dehors de la politique, qui est un peu plus élevée que la moyenne des Québécois. Puis le fait d'aller en politique puis de gagner maintenant 100 000 $ par année comme député, le problème, c'est que si ça... Il y a un trop gros décalage avec le salaire qu'ils avaient avant d'aller en politique... Ben ça peut avoir un impact financier dans leur vie personnelle. Tu sais, si la personne a gagné, je sais pas moi, 125 000 par année auparavant, quand il était pas député, puis là il gagne seulement 100 000, ben là ça a des répercussions sur son logement, où est-ce qu'il vit,
sa famille,
t'sais, sa famille, tu sais, puis pas juste une question de ah est-ce qu'il faut pour répondre à ses besoins. C'est pas ça la question, c'est de dire quand il y a un décalage entre le salaire que t'avais avant puis le salaire que t'as maintenant, ça crée des changements. Est-ce que je dois changer de maison? Est-ce que je dois changer d'appartement? Est-ce que je dois revoir mon hypothèque, etc.? Fait que ça change les habitudes de vie aussi. Puis s'il y a un trop gros décalage, ben finalement, ça décourage les gens d'aller en politique. Je sais pas si je dis... j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais quand on parlait justement de la sécurité des élus pendant les dernières élections, j'avais entendu ça à un moment donné, comme quoi il y avait peut-être un peu moins de candidats dans les courses à l'investiture dans les circonscriptions. T'sais, moins de gens se bousculent pour devenir député ou avant ça, devenir candidat dans un comté. Souvent, c'est quelqu'un se présente pour être candidat, il y a une personne, le parti l'a trouvé et that's it, t'es candidat. Il n'y a pas de course entre deux, trois individus. T'sais. Mm-hmm. Bon, peut-être que c'est moins fréquent qu'avant, mais c'est aussi pour une raison, peut-être. On ne sait pas.
Mais ça viendrait pas du fait que comme les responsabilités puis les tâches puis tout ça sont de plus en plus mis de l'avant, puis on sait de plus en plus qu'est-ce que ça prend pour être en politique, puis les sacrifices qu'on fait aussi. J'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être des gens qui s'en allaient en politique de façon très idéaliste, de façon, tu sais, comme je veux changer les choses, je veux faire le bien, mais qu'on oublie, tu sais, l'envers de la médaille qui est que ben ça prend du temps, puis c'est parfois il faut faire des sacrifices que pas tout le monde peut accepter, là, j'ai l'impression.
Il y a aussi un enjeu de salaire à double vitesse, parce que je vais aller regarder quand on va continuer à parler là-dessus, mais il me semble bien que les députés du gouvernement, ben les députés fédéraux sont mieux payés que les députés provinciaux.
Oui.
Je peux aller, pendant que vous parlez,
je
chercher
me trompe
ça.
Pas, c'est, je pense, quelque chose comme 200 000.
Oui, quelque chose de même.
Fédéral.
Comme tu parles 100 000 et 200 000, c'est pas 200 000 de différence.
Non, c'est ça, okay. 100 000 et 200 000.
OK.
Que je pense, là. J'espère que je dis pas n'importe quoi.
Moi, je vais aller regarder ça. Bon, pour commencer, tous les députés élus à la Chambre des communes ont droit à une indemnité de session de base qui s'élève à 178 900 $ par an. C'est ce que je trouve en premier. Fait que là, en effet, le salaire supplémentaire du rôle de premier ministre s'élève à ce qu'on vient de dire, mm-hmm. ce qui double l'indemnité de base et rapporte un revenu de 357 800 $ pour le premier ministre, finalement. Et là, pour ce qui est des ministres, ils ont d'autres genres d'indemnités, puis là, ça peut augmenter là, dans les 250 000 et plus. Là. Donc, il y a une distinction, évidemment. Mm-hmm. Je pense qu'il y a aussi les une distinction rôles, au Québec. Là. J'ose croire là, que le premier ministre ouais. est un peu mieux payé. Là.
Même juste les fonctions parlementaires, les whips, les ouais. leaders, ils ont des indemnités leader. Aussi. Leader. On est à Québec.
Les leaders.
Mais justement, il y avait un autre sujet au fédéral qu'on voulait parler. Donc, il y avait un article qui était sorti, en fait, d'une députée du Québec libérale qui avait été un peu reprochée là, sur beaucoup d'aspects de déontologie, comme d'être moins dans sa circonscription. Elle était partie très, très longtemps, puis les gens la voyaient plus dans sa circonscription à Montréal.
On parle d'Emmanuela Lambropoulos, oui. hein, qui avait créé une espèce de controverse parce qu'elle avait été reprochée d'avoir créé de la désinformation
aussi, oui,
par rapport autour de la question de la loi 96. Et là, tu t'enlignes vers ça, une autre controverse encore.
Avec la langue, en fait, c'est parce qu'elle avait dit que... En fait, que sa coiffeuse lui avait dit qu'elle ne pouvait plus recevoir des services de son médecin dans sa langue à cause que le médecin refusait à cause de la loi. Ce qui est faux. La loi ne prévoit pas ça. Puis c'est...
Elle avait dit ça.
Oui, elle avait dit que sa coiffeuse lui avait dit qu'elle ne pouvait plus recevoir les services de son médecin en anglais, alors que c'est tout simplement faux. Là.
Et là, je pense qu'elle s'est fait reprocher très, très récemment, publié hier, à 5 heures, dans la presse, on peut le voir, à l'été 2021, donc en pleine pandémie, là, où est-ce qu'on encourageait les gens à voyager le moins possible, non seulement pour des questions sanitaires, mais aussi pour ne pas rester pogné à l'aéroport, rester pogné dans une chambre d'hôtel. Eh bien, la députée du Parti libéral du Canada à Montréal est allée passer, je pense, un mois et demi en Grèce. Elle a déclaré ce voyage-là au commissariat au conflit d'intérêts et à l'éthique qu'elle avait séjourné en Grèce du 9 juillet au 23 août 2021. Donc, encore une autre controverse. Et pourtant, il y a une forme de déontologie qu'on voit en politique, mais cette déontologie-là, elle n'est pas toujours écrite. Hein? Il y a des normes, si on veut, de qu'on disait tantôt... On va en politique parce qu'on. Tu sais, quand elle fait. C'est une députée du gouvernement. Le gouvernement a un message, ne voyagez pas quand tu voyages. Mm-hmm. Fait qu'il y a des comptes à rendre. Fait que les députés ont comme des responsabilités finalement. Je sais pas, j'imagine qu'il y a d'autres cas comme ça là, où est-ce que les députés semblent. C'est très rare, évidemment. Là, on a des gens, heureusement, plutôt responsables au Canada dans la caste politique. Mais bref, il y a cette déontologie-là un peu abstraite qui existe dans la vie de nos élus. Qui peut être difficile à saisir parfois.
Oui, mais je me dis aussi, est-ce qu'il y a aussi, il y aurait un argument à faire de détacher la personne, disons, j'ai pas son nom, là, Emmanuel.
Mais dans ces circonstances-là, elle est allée...
De détacher, c'est ça,
elle a reçu du financement.
Son... OK, OK.
Son billet à destination d'Athènes au coût... Je suis toujours sur la presse, hein. Son billet à destination d'Athènes au coût de 1500 $ a été payé par l'Union mondiale interparlementaire de l'hellénisme. Donc, dans le fond, c'est quand tu fais un voyage à titre professionnel, en théorie, et que ton parti ou ton emploi au gouvernement ou en politique ne va pas nécessairement rembourser tous les frais, ben là, à ce moment-là, tu vas pouvoir bénéficier d'une somme. Et cette somme-là, elle est utilisée, on peut le voir, à des fins qui ne sont pas purement professionnelles, parce que tu
ne
pars
ça,
jamais...
Mais ça, c'était pas son cul. C'était pas son voyage. C'était pas pour... Je veux dire, elle faisait pas partie d'une certaine genre de délégation du Canada. C'était vraiment de ce que j'en vois là, dans le cadre de ce voyage.
Généralement, c'est...
Non, je suis pas mal sûr que c'est des raisons personnelles.
Ouais.
Mais ça revient aussi à l'aspect, est-ce qu'il faut détacher le député de... Tu sais, tantôt, on parlait de l'infidélité. Là, de justement, ton gouvernement, qui même le parti que tu représentes, a une certaine orientation, te dit à la population complète de faire une chose en particulier. Puis là, t'as même les gens dans ton parti qui respectent pas ça. Fait que là, ça vient un peu même à décrédibiliser, là, j'ai l'impression, le gouvernement puis le message que le gouvernement veut apporter.
C'est pas juste une question de message. C'est aussi où est-ce que tu prends l'argent pour faire ces voyages-là. Puis quand c'est mm-hmm. des comme ça, un voyage qui est parrainé financièrement, Ouais, ben là, c'est encore pire.
Le problème, oui, c'est pas en tant que tel qu'elle aille en Grèce, c'est qu'il y a de l'argent qui soit utilisé pour ça, puis que les gens, sur sa circonscription, la voient moins. Tu sais, aller en voyage en tant que tel, c'est sa vie. Là. Puis on en a parlé tantôt de faire la différence entre les deux, mais c'est après ça, c'est un impact qui questionne certaines compétences.
J'imagine si cette nouvelle-là était sortie en 2021, encore dans la pandémie, on aurait probablement plus parlé en termes de controverses du voyage en tant que tel.
C'est ça. Ça aurait passé sous le silence, l'aspect du financement, tout ça. Ça aurait plus été comme, ben, du moins, dans les journaux, la sensation, tout ça, ça aurait probablement été plus le voyage qui aurait été abordé.
Mais bref, on a de la dissension au Parti libéral du Canada, de la Bisville, mesdames et messieurs. Voilà, et là, on sent qu'on n'est pas tout à fait dans une période préélectorale. Il n'y a aucun parti semble vraiment vouloir aller en élection, là, même si le gouvernement fédéral est minoritaire. Les conservateurs ont encore besoin de temps, dans mon analyse à moi, pour que Poilievre se fasse un petit peu plus une image. Le Parti libéral, il n'est pas dans une bonne position. Il est en ce moment, dans les derniers sondages, il est très, très, très serré avec le Parti conservateur. Le NPD, les sondages ne le mettent pas en avant nécessairement. Puis avec sa dernière alliance avec le Parti libéral pour voter certains projets de loi, pour certains, il a perdu une partie de capital de sympathie. Donc, je pense qu'il n'y a aucun parti qui va aller en élection maintenant, surtout pas avec une nouvelle comme ça. Donc,
Mais dans le fond, là, c'est ça, on parle de... Tantôt, on parlait des gens qui sont en politique, qui choisissent d'aller en politique, puis que c'est un choix personnel. On dit on veut changer les choses, on veut faire... Bon, t'sais, on veut faire la différence, mais il y a certaines personnes qui font ce saut-là en politique et qui se retrouvent à vraiment devoir gérer des situations, même catastrophiques. Je pense qu'on pourrait parler en ce moment de la crise en Ukraine là, actuellement, avec le président qui était une personne qui n'avait pas vraiment comme d'expérience politique, là.
Oui.
Tu sais, c'est une personne qui, de ce que j'en ai compris, c'est un acteur, réalisateur, tout ça. Est-ce que cette personne-là était, disons, moins compétente pour arriver en poste? Et là, en plus, je veux dire, ça aurait jamais pu être envisagé, là, ce qui s'est passé.
Non, il n'y a pas si longtemps, on regarde, dans un spectacle d'humour, il jouait du piano avec ses parties génitales, pour vous donner un exemple. Donc, non, il n'était pas... Je vous montrerai ça après le podcast. C'est très, très drôle. Non, mais bon, on s'en parlera tantôt. Il n'y a rien de problématique là-dedans. Mais bref, faisait des shows d'humour très, très osées, parce que c'est, comme tu le disais, un humoriste, un producteur, un réalisateur, un acteur. Et là, il se dirige dans la politique. Et bon, pour certains, moi, je suis garant un peu de cette opinion-là. Moi, je trouve que quand on a des élus qui viennent d'un domaine largement, très lointain de la politique, il y a une certaine avantage qu'il y a avec ça, parce que ça fait des gens qui n'ont pas développé des formes de coutumes politiques qui les amènent à avoir des stratégies. Là où est-ce qu'ils ne devraient pas nécessairement y en avoir, tu sais? Quand c'est un professeur au primaire, au secondaire, quand c'est un comédien, quand c'est quelqu'un qui travaille en entreprise puis qui va en politique, mais ça fait pour moi des individus qui vont pas être, dont la vision de la politique va pas être contaminée par des mœurs, par des stratégies un peu inutiles, par une volonté de toujours... Ça leur donne une forme d'authenticité à ces gens-là. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qui les rend davantage attachants pour les électeurs. L'Ukraine, ça a été un pays qui a longtemps été gangréné par la corruption. C'est un pays d'ailleurs, même dans les dernières années avant la guerre en Ukraine, qui était dans le palmarès des États avec le plus de corruption en Europe de l'Est, qui était parmi les plus élevés juste après la Russie. Donc, c'est pas une démocratie parfaite, mais de voir un bon, gentil monsieur, comédien qui se présente en politique, pour moi, ça a dû inspirer les gens.
Surtout dans
ce climat-là.
Juste pour qu'on parle de la situation de la corruption, là, par exemple, avant la guerre, la popularité de Zelensky était en baisse, puis son nom était sorti dans les Panama Papers. Fait que ça aide pas, mais là, il y a comme y a l'effet de drapeau, là, qu'il a comme su avoir beaucoup de leadership pendant la guerre. Puis,
il y a un effet de rassemblement, mais avec la guerre, bien sûr. On a vu ça au début de la pandémie avec François Legault. Est-ce que sa popularité est-ce qu'elle a monté en flèche? Mais Zelensky, même quand il est arrivé au pouvoir, Il avait gagné avec un résultat quand même, si je me trompe pas, assez impressionnant. Bref, faudrait que j'aille regarder ça, mais bref, il me semble que le résultat, vous pourrez regarder ça en même temps, là, mais il me semble qu'il est arrivé avec des résultats quand même très, très intéressants, puis il y avait eu un bon capital de sympathie. Évidemment, il y avait les conflits dans l'est de l'Ukraine, avec les mouvements séparatistes dans le Donbass, etc. Donc, ça fait beaucoup de crises politiques à gérer en même temps. Il y avait eu la révolution du Maïdan en 2014, il y avait eu l'invasion de la Crimée. Donc oui, quand t'arrives en politique après ça, ça doit être difficile d'escalader dans l'opinion publique. Mais bref, il avait réussi à faire ça, à devenir très, très populaire sans avoir le bénéfice de la guerre en Ukraine. Donc, ouais. Je pense qu'il y avait un besoin de renouveau en Ukraine même avant ce conflit-là.
Je pense, bien, de ce que je vois, 73,2%
des votes. Même. Très des fort. Votes. Le deuxième concurrent, sais-tu, il y avait combien?
Ben là, je suis pas dans le...
C'est ça, parce que le nom de son parti, c'est le nom de la série qui jouait le président de l'Ukraine avant de le devenir.
C'est quoi le nom de la série, déjà?
Serviteur du peuple.
Serviteur... Ah, puis son nom, le nom de son
serviteur
parti?
Serviteur du peuple.
Oh, mon Dieu! Wow! Bon, ben, ça lui avait donné un capital de sympathie d'avoir joué dans cette série-là. Hein. Il a un peu colporté l'image présidentielle qu'il avait dans cette série-là, puis il l'a amené dans la scène politique. C'est ce qu'on pouvait constater. Là, je parle beaucoup comme si j'étais un expert, mais j'ai écouté beaucoup, beaucoup de documentaires puis de reportages sur le contexte politique en Ukraine parce que ça m'intéressait beaucoup. Puis oui, donc il y a un phénomène qui entoure Zelensky, mais c'est pas juste grâce à lui. C'est aussi en Ukraine qu'il y avait un vent de changement là, depuis 2014, où est-ce qu'il voulait se détacher de la Russie, se rapprocher de l'Europe, de l'Union européenne, de l'OTAN aussi, de développer leur économie, de se démocratiser davantage. Puis on dirait qu'il y avait comme la figure parfaite pour faire entamer ce changement-là. Donc, un politicien un peu inhabituel, tu sais, authentique. Donc, voilà, j'espère que tu vas pouvoir jouer dans une série la prochaine fois.
Ouais, c'est...
Ça pourrait aider. Tu sais, Zelensky, en plus, il y a eu une entrevue qu'il y avait eu avec lui récemment, qui est disponible sur Netflix, avec David Letterman. Puis moi, ce qui m'avait fasciné, c'est à quel point il est tranquille malgré qu'il y ait comme une guerre. Là.
Ouais.
Ce qui m'avait fasciné dans ce que c'est Antoine qui m'avait envoyé cette entrevue-là, c'est au début, on entend les sirènes qui disent qu'il va y avoir un bombardement. Puis l'intervieweur lui demande qu'est-ce qu'on fait. Puis tout tranquille, il dit ben rien. Juste, il vient avec.
L'entrevue se faisait dans un métro, si je ne me trompe pas, là, à Kiev.
On est dans les lieux. Et... Je pensais qu'on était comme dans un studio. Non,
L'entrevue Netflix est faite à Kiev, dans une station de métro, avec des citoyens, puis entourés de soldats de l'armée ukrainienne qui surveillaient ça, bon, très vaillants. Puis ça donnait un décor... bon, c'était assez particulier. Mm-hmm. Je vous encourage à l'écouter, ce documentaire-là. Documentaire, je ne sais pas comment dire ça, un espèce de long reportage sur Netflix. Oui, je pense que ça avait été tourné quand la fin du printemps passé, quelque chose comme ça.
Genre.
Ouais.
Mais ça revient au fait que justement, c'est comme un peu la personne qui est au pouvoir qui. Tu sais, on le voit avec François Legault, qui est comme un peu le papa, là, c'est ça, là. Tu sais, comme qu'on le voit comme une figure, tu sais, très. Je sais pas, tu sais, comment qu'il parle, c'est familier, c'est comme. On est capable de. Les gens « relate ». Je suis désolée, ouais. J'ai pas le bon mot en français, mais j'ai comme l'impression que de plus en plus, que les gens veulent. C'est ça qui amène...
Je pense qu'au Québec, oui. Ça, c'est payant, mais je pense que c'est pas le cas partout.
Mm-hmm.
Il y a des manières de faire la politique qui sont différentes à plein d'endroits, mais je pense que les Québécois aiment ça de chez François Legault, de comment il parle aux gens.
Il y a des pays, notamment en Europe, où est-ce que c'est plus la question du professionnalisme, ouais. De veston-cravate. Est-ce que cette personne-là s'exprime bien? Est-ce qu'elle elle peut résumer? Est-ce qu'elle peut réciter des poèmes pendant ses discours sur l'Élysée? Il y a des... Oui, effectivement. Puis aussi en France aussi, là, des fois, tu les écoutes débattre ensemble en France, puis mon Dieu, ils ont du vocabulaire, ces gens-là. Ici, c'est plus... bon, est-ce que c'est mon cousin du réveillon de Noël qui est venu jaser avec nous à soir autour d'une bière de politique? T'sais, on a besoin d'une espèce de figure paternelle au Québec, là, le Daddy Legault, Daddy Lévesque, qui est importante pour nous.
Donc, bien que j'aimerais entendre mille et un autres potins et mille et un autres anecdotes politiques, l'épisode tire malheureusement à sa fin. Donc, merci les gars de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était plaisir. Très plaisant, comme, très informatif aussi. Puis, je trouve, on a eu comme une nouvelle perspective là, de voir la politique autrement. Donc, sur ce, merci de votre écoute. On se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A Priori. Ciao, ciao!
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec.
À conduite antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les